Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord pour un voyage tout en archives et tout en interviews, savoureuses, souvent décoiffantes et parfois même touchantes. Celles de musiciens rencontrés au début des années 80, à l'une ou l'autre exception près, pour les bons soins de notre télépublic belge par le regretté Gilles Verland la plupart du temps. Je pense à Jean-Jacques Burnel des Stranglers, Je le maire à l'époque de Je le maire plus Flouze, Ralph Hütter de Kraftwerk en français, Serge Gainsbourg dans des moments que vous n'avez peut-être pas encore entendu, ou encore Arnaud, alors leader de Kissimatique. Et croyez-moi entendre ce que tous ces artistes pensaient il y a 40 ans, à leur début ou à leur climax, ça ravigore. Alors accrochez-vous au garde-fou. En novembre 1981, c'est un Bachung auréolé des succès Gabi au Gabi et Vertige de l'amour que la RTBF suit tout au long d'une escapade bruxelloise du chanteur.
J'ai vraiment connu Bruxelles pour soit pour faire des télés ou chanter. Mmh. C'était uniquement artistique. Quoi. Ouais.
La dernière fois au Janson, c'était il y a un an, c'était pas très drôle. C'était juste avant Gabi au Gabi.
J'ai pas un très mauvais souvenir, sauf que bon, on n'était pas beaucoup. Ouais. On était vraiment pas beaucoup. On était presque plus sur scène que dans la salle. Quoi.
Et quand tu tournais avec ton groupe de bal dans les années 60, c'était quoi ?
Ah, c'était pas du bal, hein. C'était très spécial. C'était un groupe qu'on avait fait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter une belle guitare électrique et un gros ampli. C'était un luxe terrible. Alors, on jouait plutôt de ce qu'on appelait à l'époque du bluegrass, une espèce de musique qui vient du sud, tu vois, des États-Unis. Avec tout ce que ça comporte, tu vois, le washboard, la guitare de Scorn, c'était. On appelait ça du skiffle aussi, un peu. On a trouvé une espèce d'impresario noir énorme qui faisait tourner des groupes, tu sais, dans les bases américaines, qui n'existent plus maintenant depuis je ne sais pas combien d'années. Et rester un mois dans chaque base, et puis on jouait 4 heures tous les soirs. Hein, devant des GI complètement pétés, parce qu'ils s'emmerdaient. Il n'y a pas de guerre, il y avait que le bingo le soir, un peu. Tu vois. Et puis quelques machines à sous, tu vois.
Tu faisais des versions de hit du moment, des machines comme ça.
Voilà, c'est un peu des trucs, genre un Sloopy.
C'est une bonne école, quoi.
Ah oui, oui, c'était bien.
Et Gabi au Gabi, première incursion dans les hit parades. Ça s'est passé.
Non, j'étais déjà dans les hit parades avant, mais ouais, j'étais. J'étais près du radiateur. Ouais, c'était pas du tout évident. C'est-à-dire maintenant, on a l'air de me dire un peu que c'est un truc qui est super commercial et tout ça. Mais c'était pas du tout évident parce que pendant 6 mois, c'était un peu. Il y avait des tas de gens qui avaient un petit peu peur de ce que je racontais, ou je sais pas quoi.
Dans les paroles de Boris Bachmann, il y a tout plein de double sens. Et dans...
Oh là là, double sens, alors, tu rigoles, il y a 4 ou 5 de temps en temps.
Ah. Ah ouais. En particulier Gabi, qui a des références homosexuelles, me suis-je laissé dire.
Oui, ben oui.
Absolument.
Mais c'est pas par vice ou par provocation, parce que il y a aucune raison qu'un type ne dise pas me laisse pas seul la nuit, parce que je pourrais faire des conneries à un autre.
Ce podcast ne contient que des extraits musicaux pour des questions de droit. Pour une expérience complète, rendez-vous sur ovio.be.
En 1981, Kraftwerk dévoile son Computer World, 8e album d'une épopée défricheuse entamée 11 ans plus tôt, en 1970. Kraftwerk, qui deviendra exclusivement électronique 5 ans plus tard, en 1975, avec Radio Activity. car au bord de l'autobahn qui l'avait précédé se trouvait encore un violon, une guitare et quelques percussions. C'est ensuite un Trans Europe Express qui partira de Düsseldorf, direction les Champs-Élysées. Avant que ne fasse irruption un Man Machine. Et donc en 1981, ce Computer World. L'occasion pour Gilles Verland de rencontrer l'un des deux fondateurs de Kraftwerk, Ralf Hütter.
Vous avez lancé le mouvement du robotisme, du machinisme en musique, un mouvement qui a été souvent imité, jamais égalé. Et l'exemple plus frappant étant l'album de Man Machine et le morceau de Robots en particulier. Pourquoi avoir proposé cette esthétique ?
Pour nous, c'est une réalité quotidienne. Notre existence étant robotique, robotisée, Robotnik russe, ça veut dire travailleur. Et nous, on s'est toujours définis comme des travailleurs musicaux.
Est-ce qu'il y a une opposition entre le travail de l'artiste et le robotisme, ou est-ce que c'est compatible ?
Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des travailleurs musicaux.
Pourquoi rejeter le concept de l'art ? Parce qu'il a une valeur
Je ne sais pas, c'est une conception du 19e siècle, de romantisme. Pour nous, ça existe plutôt une productivité industrielle.
Mais on trouve une certaine forme de romantisme dans certaines de vos chansons, comme Trans Europe Express ou Radioactivity.
Oui, c'est peut-être même un romantisme technologique ou écologique.
Vous avez parlé de productivité, et justement, il y a eu un très très long temps entre The Man Machine et Computer World, le dernier album. Ce n'est pas exactement du staccanovisme.
Oui, nous travaillons chaque jour, et il fallait 3 ans pour terminer le concept du studio transportable. C'est-à-dire que nous avons mis tout le temps entre les deux albums à construire notre instrument, quoi. Et vraiment, nous faisons tout nous-mêmes, le software, hardware, les programmes pour les computers, toutes les installations, les câbles et le concept. C'est-à-dire c'est vraiment très personnalisé parce que nous avons tous la même taille. Et c'est, c'est-à-dire, c'est un instrument sur notre mesure, fait par nous-mêmes, parce que pour la musique électronique, on ne peut pas aller dans n'importe quel magasin et dire bon, je veux ça, ça, ça. Ça n'existe pas, c'est une recherche plutôt.
Paradoxalement, Computer World semble être la suite de The Man Machine au niveau des thèmes qui sont abordés, puisque c'est de nouveau l'ordinateur, le robotisme.
Oui, c'est peut-être Man Machine, le mécanique côté du physique. Et maintenant, Computer World, ça représente pour nous un peu le mécanisme du mental. Le côté dont nous sommes programmés, tous programmés.
Nous sommes tous programmés ?
Oui, bien sûr. Génétiquement, par les codes génétiques, par les codes d'éducation, par les codes de comportement social. Oui, c'est ça.
Donc l'homme, d'après vous, ne détermine pas sa propre existence à aucun moment ?
Par des petits choix de programme.
C'est un stéréotype usé jusqu'à l'os, mais est-ce que l'homme a encore une chance face à la machine aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. La machine et l'homme pourront bien vivre en amitié, et c'est ce que nous avons travaillé sur The Man Machine. Man Machine, c'est pas un dominant l'autre ou une bataille, mais plutôt une coexistence en amitié, ce que nous cherchons. Et c'est notre expérience au studio, vraiment, où nous faisons toutes nos pensées et nos idées seront retransmises vers nous avec des machines électroniques.
Serge Gainsbourg, Gilles Verland, qui en sera le biographe officiel, l'a bien sûr interviewé en 1981 pour son émission Ligne Rock, mais pour notre maison, Selim Sasson l'avait aussi cuisiné à Cannes en 1972, alors qu'était projeté au festival Trop Joli pour être honnête, ou Quatre souris pour un hold-up, film franco-italo-espagnol de Richard Balducci dans lequel Gainsbourg avait un petit rôle, mais dont Jane Birkin partageait l'affiche avec notamment Bernadette Lafont.
Et la réalisation, ça ne vous tente pas ?
Si, un jour. Mais pas si je serais assez malin pour que le film marche. Ça m'intéresserait pas de faire un film facile.
La résultante de 14 ans de métier serait un musical au cinéma, je pense.
Ça, la façon pour moi de justifier à l'âge adulte. J'ai quand même 44 ans et je peux pas finir ma vie dans la chanson.
Pourquoi on ne peut pas finir sa vie dans la chanson?
Enfin, moi, je ne peux pas. D'aucuns y laissent leur peau. Mais moi, j'estimerais que j'ai raté ma vie.
Parce que c'est un art mineur.
Oui, c'est un art mineur. C'est un art mineur qui me déséquilibre. La notoriété dans ce domaine me déséquilibre parce que il faut. Soit consommable dans l'immédiat, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'être un visionnaire. Je ne dis pas que je le suis, que je le serai. Je pourrais l'être, je pourrais écrire des choses très difficiles. Mais je ne veux pas parce que je suis sous contrat avec une maison de disques qui me. Si je ne fais pas un chiffre d'affaires suffisant, résiliera son contrat du jour au lendemain. Donc il faut que je vende du disque. C'est ça qui m'ennuie. Quand je faisais de la peinture, j'en ai fait pendant 15 ans, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fini à 30 ans. J'étais inconnu et équilibré. Parce que j'avais un art majeur où j'avais la notion de l'esthétique du beau, du nombre d'or, des choses, des rigueurs éternelles. Avec la chanson, je suis devenu un opportuniste, habile. Tout en technique, sans cœur, ou un peu de cœur parfois. Donc ça déséquilibre un homme qui a connu un art majeur.
Ceci dit, quand vous chantez, on a un peu l'impression que vous chantez pour nous donner à entendre que vous n'êtes pas chanteur. Non ?
Ça fait 14 ans que je fais ça. 14 ans que je ne chante pas, et je chante de moins en moins d'ailleurs. Je parle beaucoup actuellement dans mes disques parce que je veux retrouver un peu plus de rigueur, un minimum de rigueur. Alors, si j'écris un sonnet, il est difficile à mettre en musique. Alors, je mets des rythmiques derrière. C'est ce que j'ai fait dans Melody Nelson.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
En mars 1982, Jean-Jacques Burnel, bassiste et co-chanteur des Stranglers, est à Bruxelles, ville qu'il connaît bien pour y produire cette année-là le groupe Polyphonic Size. Mais il est également présent pour Ligne Rock de notre ami Gilles.
Jean-Jacques Burnel, tu es français ? Un jour,
non,
tu étais.
Je suis européen.
Tu es européen, c'est bien. En fait, tu es d'origine française, je
pense. Pardon ? Et français.
Un jour, tu étais en Angleterre. Et puis, tu as formé un groupe avec des amis qui s'appelle les Stranglers.
Pas tout à fait.
Hein ?
Ce
sont pas des amis ?
Non, j'étais déjà en Angleterre, parce que j'étais né là-bas.
Et qu'est-ce que tu faisais avant les Stranglers ?
J'ai fait des études d'économie et j'étais une fois skinhead, greaser, karate. You know. Mm-hmm.
Tu étais avec les skinheads ou les moteurs ?
Quand j'avais 15 ans.
Pourquoi tu étais attiré par ce genre de bande ?
Parce que j'aimais la coupe de cheveux. Les Doc Martens. Les bottes Doc Martens.
Les skinheads ont toujours eu une mauvaise réputation en Angleterre. Et encore plus depuis l'été dernier où il y a eu des émeutes et ce genre de choses.
Yeah, mais les émeutes, ça n'avait rien à faire avec les skinheads. Ce sont beaucoup de jeunes qui ont été. Dernièrement, ils ont une association avec le National Front et le British Movement, parce que ce sont des jeunes qui sont très frustrés, vous savez. Ils n'ont pas beaucoup de choses pour en être fiers, seulement d'être blancs et britanniques. Alors, ils mettent toute leur foi là-dedans.
Et donc ils sont attirés par le British Movement, le National Front, qui sont des trucs fascistes.
Oui, parce qu'ils sont attirés de ça, parce que ça, c'est un peu de l'énergie, un peu d'action, ça, un peu de romanticisme. C'est les jolis uniformes.
Tu te trouves à Bruxelles pour l'instant pour produire un groupe qui s'appelle Polyphonic Size. Et les rares groupes que tu as produits sont toujours étrangers à l'Angleterre. Ils sont soit japonais comme Lizard ou français comme Taxi Girl. Pourquoi cet intérêt pour les musiques extra-anglaises?
Oh, parce que, bien sûr, c'est toujours un peu plus exotique et attirant d'être en dehors de chez soi, n'est-ce pas? Et aussi, ça me permet de voir, de bouffer la nourriture japonaise, française ou les frites.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans Polyphonic Size?
J'aimais leur européanisme. Et aussi les rythmes et les paroles, je trouve incroyables, vraiment.
La vidéo de Duchess avait été bannie en Angleterre, pourquoi?
Parce que, on avait enregistré ça dans une église, et le curé de l'église avait bien voulu, il s'est même défoncé avec nous. Pardon, excuse mon anglais. C'était... saouler la gueule avec nous. Et puis la BBC s'est dit plus expert dans matière ecclésiastique que l'Église. Alors ils ont banni l'émission. Ils aussi n'aimaient pas qu'on fasse des... On s'habille en petit choriste, en petit chanteur, c'est tout mignon. Et ils n'aimaient pas qu'on fasse le pas droit en sortant de l'église.
En 1981, Je le maire plus Flouze se révèle aux oreilles du grand public avec une entêtante reprise électro-cold wave de Je suis venu te dire que je m'en vais de Gainsbourg. Disque de platine en Belgique et succès en France, adoubé par Serge, ce disque se retrouva ensuite sur la compilation de Gainsbourg intitulée « Il les fait chanter » entre Jane Birkin et Brigitte Bardot. Mais la chanteuse et autrice Je le maire ainsi que son groupe Flouze ont eu une vie avant. En 1982, dans Ligne Rock, Gilles Verland rencontre la chanteuse Je le maire et le batteur Philippe de Pierreux qui furent partenaires sur scène comme dans la vie.
Philippe de Pierreux, Jean Lemaire, le noyau de Jean Lemaire plus Flouze. Comment vous êtes-vous rencontrés? Y a-t-il une anecdote croustillante à ce sujet?
Très croustillante, on peut le dire. On s'est rencontrés à Jemel, à un festival de rock-pop musique, comme on disait, en 72.
Qui est-ce qui jouait sur scène?
Oh, je ne me rappelle pas.
Ça, je crois qu'il y avait Colosseum, Charles Dijon.
Quelle époque!
Beaucoup de choses très intéressantes.
Tu chantes depuis longtemps?
Toujours.
Qui écrit les textes, quoi? Toujours?
Oui.
Quelles sont tes sources d'inspiration?
Le jour, la nuit, la solitude.
Le temps.
Oui, le climat. Nous sommes un groupe d'hiver. beaucoup de choses, finalement.
C'est vrai, il faisait déjà froid le jour où le premier 45 tours est sorti. Quelle est sa conviction?
Oui.
Il y en a même deux. Ils sont sortis à 3-4 points d'intérêt. Oui. Fee Forever, Stakana. Des pochettes lamentables. Mais déjà,
on peut le dire. On peut le dire, oui.
Il y avait encore des longs cheveux à l'époque.
Oui. Ce sont deux 45 tours qu'on a autoproduits, autodistribués. C'est-à-dire que nous avions beaucoup de culot. Alors, on est allé dans un petit studio l'enregistrer. Puis, on a fait les pochettes nous-mêmes.
Elles collées nous-mêmes.
Elles sont hideuses. Et on est allé aux radios environnantes, ennuyer les programmateurs. Malgré ça, ils aimaient quand même bien. Ça a commencé comme ça.
S'il fallait refaire cette chanson maintenant, qu'est-ce que vous changeriez?
Rien.
Maintenant, est-ce que vous parvenez à vivre de la musique?
Tout ça, c'est relatif, quoi. Je crois qu'on parvient à vivre de la musique, mais on vit en fonction des besoins qu'on a aussi. Et par le fait de vivre tout le temps dans le milieu musical, nos besoins se limitent à peu de choses. Et je crois qu'on en sort, oui. Financièrement, en tout cas.
Toi, tu n'as pas d'autre boulot,
je ne fais rien. J'ai réussi.
Que représente le premier album? Comment est-ce que vous le décririez aujourd'hui?
un jet un peu spontané et rapide. Il faut expliquer peut-être que, après avoir autoproduit ces deux premiers 45 tours, on s'est fait signer dans une firme de disques. Et ça allait un peu vite, quoi, parce qu'on se demandait un peu ce qui nous arrivait. On nous offrait tout de suite la possibilité d'enregistrer un album, sans même avoir toute la matière pour pouvoir le faire. Et je crois que la semaine avant d'aller enregistrer le premier album, il manquait deux morceaux, et qu'on les a fait en vitesse, mais on ne pouvait pas louper la possibilité qu'on nous offrait. Et c'était très très spontané. Je crois qu'on est resté une semaine aussi en studio pour faire cet album. C'est pas beaucoup.
Dès le premier album, les critiques, toujours sexistes, t'ont comparé à de multiples chanteuses. À qui est-ce que tu as été comparée ?
Il faut dire que le répertoire du groupe est tellement varié et diversifié que les gens ont tendance à comparer à tout le monde, évidemment. Si on veut citer des noms, il y avait Nina Hagen, puisqu'elle est arrivée au même moment, la pauvre. Alors, il y avait Chrissy Hynde un peu après, puis...
Emma Lovitch.
Oui, exactement, comme tu dis. Mm-hmm. Je crois que c'est un peu tout.
Dalida ?
Non.
Après ça, il y a eu le deuxième album, précédé par un 45 tours, sur Static. Deuxième album avec une autre production et d'autres musiciens. Mm-hmm. Precious Time. Et puis évidemment, la reprise de Je suis venu te dire que je m'en vais, de Gainsbourg. Pourquoi Gainsbourg ? Est-il content de cette chanson ?
Je crois qu'il a reçu l'album il n'y a pas longtemps, puisque... Nous sommes dans la même firme de disques. Mais alors, je ne sais pas encore ce qu'il en pense. Je crois qu'il a l'habitude d'écrire aux gens qui font des reprises de ses morceaux pour leur dire ce qu'il en pense. Mais il ne l'a pas encore fait, en tout cas. Puis, pourquoi Gainsbourg ? Parce que Joanne adore Gainsbourg.
Moi, j'aimais beaucoup l'album Melody Nelson. C'était vraiment un album que j'aimais, quoi. C'était sentimental pour moi. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'avais entendu ce morceau en radio. Et je m'étais dit, c'est ce morceau-là que je voudrais chanter. C'est un morceau que j'aimerais chanter plus qu'un autre. C'est comme si je l'avais écrit moi-même, presque. Bon, pardon.
Peu après, cette même année 82, séparation du couple et du groupe et chemin solo pour Je le Maire. Pour conclure ce bain de jouvence télémusicale, revivons quelques moments avec Arnaud, rencontré en mars 82 alors qu'il est toujours le leader de Tissimatic, qu'il a enregistré « Oh là là là, c'est magnifique » mais pas encore « Putain, putain, c'est vachement bien ».
Quelle est la part d'identité belge dans la musique de Tissimatic ?
Eh bien là, le truc belge qui est dans Tissimatic est que on chante en français, en anglais, en allemand et en flamand. Et ostendais aussi. Dans l'histoire d'Ostende, il y a beaucoup de gens qui sont très connus dans le monde entier. Par exemple, quand tu es au Japon et tu parles de la Belgique, on parle de James Ensor. Et c'est un ostendais. Et par exemple, Kamaruka, c'est aussi un ostendais. Et Spilliard et Permig, c'est aussi un ostendais, quoi. Et moi aussi.
Je crois que ta famille a été assez liée avec ces personnalités d'Ostende, en particulier ta grand-mère.
Oui, ma grand-mère, elle a joué dans le temps. Elle a chanté dans les cinémas, quoi. Elle joue de la piano. Et elle chante les arias avec les films de Rudolf Valentino, comme ça. Hein. Elle a connu beaucoup d'artistes. Peut-être elle a été le groupie des artistes de la Belle Époque. Quoi. On ne sait jamais.
C'était donc Arnaud Hintjes en mars 1982 en compagnie de notre ami Gilles. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler, vous le savez. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
We're on the air. Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.